Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h14, le petit déjeuner de la présidentielle ce matin, c'est Yannick Jadot, député Europe Écologie Les Verts et candidat à l'élection présidentielle.
Bonjour Yannick Jadot.
Bonjour.
La guerre en Ukraine, quelles négociations possibles? Toute l'Europe peut-elle basculer? La campagne électorale, comment se faire entendre? L'écologie et les prix de l'énergie, la vie sans Sandrine Rousseau, les ralliements à gauche comme à droite, autant de sujets que nous allons évoquer jusqu'à 9h15, avec également les questions des auditeurs, de nos éditorialistes aussi du jour. Alors commençons par l'Ukraine. Poutine ne semble rien lâcher, c'est ce qu'il a laissé entendre hier à Emmanuel Macron, près de 2 heures d'entretien téléphonique, a priori. Il est déterminé à atteindre son but, soit par la négociation, soit par la guerre. On ne voit pas de compromis à l'horizon, en croix coup. Quelles sont les portes de sortie, selon vous ?
Continuer à infliger des sanctions massives à Poutine et à son oligarchie, continuer à montrer que l'Union européenne, avec ses alliés, est extrêmement ferme, continuer à soutenir la résistance ukrainienne qui est absolument héroïque et inattendue, particulièrement pour Vladimir Poutine. Donc se donner les moyens d'imposer un cessez-le-feu et évidemment après le retrait des chars russes, parce que on voit la situation empirer dramatiquement. Très clairement, le président russe ne fait plus la guerre à une armée ukrainienne, il fait la guerre à la population civile, avec des crimes de guerre qui sont aujourd'hui documentés. Et donc, il va falloir continuer, je l'ai dit, à mettre la pression sur Vladimir Poutine, à se montrer extrêmement ferme et à soutenir la résistance ukrainienne, parce que elle se bat pied à pied dans la rue, dans les maisons, une partie de la population sait sur la route de l'exode. Et évidemment, il faut accueillir les Ukrainiens.
Oui, vous avez dit donc évidemment que cette population est touchée, donc l'exode. Il y a des couloirs humanitaires là qui ont été mis en place déjà. Visiblement, ils fonctionnent ou ils fonctionneraient depuis 8 heures ce matin. Ça, c'est une première bonne chose.
Non, malheureusement, ces couloirs humanitaires sont profondément scandaleux, puisque en fait, c'est des couloirs humanitaires qui ne mènent qu'en Russie ou en Biélorussie, qui sont les deux pays belligérants contre l'Ukraine, contre la démocratie en Ukraine. Il faut toujours rappeler ce qu'est ce conflit. J'entends toutes les complaisances qui nous ont expliqué pendant des semaines et des mois que c'était la faute des Américains si Vladimir Poutine massait des troupes russes. Le seul sujet de Vladimir Poutine depuis 20 ans, c'est de combattre la démocratie dans son pays, c'est de combattre la démocratie à ses frontières. Donc c'est vraiment un conflit qui nous concerne toutes et tous. C'est pas un conflit simplement sur le sol européen. C'est un conflit sur tout ce que les Européens, tout ce qu'on essaye d'incarner, tout ce qu'on essaye d'incarner comme modèle de société fondé sur les libertés et sur la démocratie.
Oui, vous avez dit crime de guerre. Vous pensez à quoi précisément? Vous dites que c'est documenté.
Ben, quand vous avez des bombardements sur des hôpitaux, quand vous avez des bombardements sur des infrastructures publiques, quand vous avez des bombardements sur des immeubles, quand vous avez des bombardements sur des centrales nucléaires, on est évidemment au-delà de toute, j'allais dire, de toute discipline ou de toute règle en matière de conflit. C'est toujours terrible, mais vous savez, encore une fois, on entend ici ou là que finalement ce serait une guerre entre deux États belligérants. Non.
Vous pensez à qui quand vous dites
guerre, c'est une guerre, c'est une guerre menée par Vladimir Poutine contre un peuple qui ne l'a jamais provoqué, qui aspire simplement à vivre libre dans un pays libre.
Oui. Quand vous dites ici et là, vous faites référence à qui? Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui revendique un certain pacifisme hier, lors de ce meeting.
Écoutez, j'ai entendu le discours de Jean-Luc Mélenchon, y compris maintenant il se prend pour Jean Jaurès. Mais Jean Jaurès doit hurler dans sa tombe. Il doit hurler dans sa tombe d'être associé à quelqu'un qui a toujours considéré que finalement l'Ukraine devait disparaître au profit de la Russie. Vous imaginez Jean Jaurès défendre les bombardements des populations civiles en Syrie? Vous imaginez Jean Jaurès défendre l'assassinat des opposants politiques en Russie? Vous imaginez Jean Jaurès défendre des crimes de guerre et se faire un immense écran de fumée en disant paix, 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 quand il s'agit d'abord de, oui, refuser, oui, de refuser des sanctions massives contre Vladimir Poutine, quand il s'agit de refuser d'armer la résistance ukrainienne. Mais heureusement que les Anglais et les Américains ont armé la résistance française. Oh, et moi, je regrette que le Front populaire n'ait pas armé les Républicains pendant la guerre d'Espagne. Donc, tous ces grands discours sur la paix, et en citant le grand Jaurès... En citant le grand Jaurès pour masquer ses complaisances et pour masquer sa capitulation face à une dictature, celle de Vladimir Poutine.
Complaisance, complaisance avec qui ? De Jean-Luc Mélenchon avec vis-à-vis de Vladimir Poutine ?
Mais écoutez, quand Jean-Luc Mélenchon disait Vladimir Poutine a réglé le problème syrien en bombardant les populations civiles, quand en 2014, avec l'annexion de la Crimée, il disait mais c'est normal que la Crimée revienne à la Russie et vous allez voir cet État qui n'est pas un État s'effondrer de lui-même. Quand il y avait eu un opposant empoisonné de Vladimir Poutine et qu'il a accusé le complot, quasiment le complot américain. Écoutez, à un moment donné, il faut être un peu sérieux. Il ne s'agit pas de faire des discours grandiloquents pour masquer encore une fois l'abandon. L'abandon des Ukrainiens à la Russie, l'abandon de toute valeur en matière de défense de la liberté et de la démocratie.
Ce que veut aussi par là Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il dénonce une Europe belligérante, il dit attention si...
Mais elle est où l'Europe belligérante Mais de quelle Europe belligérante on parle?
Si on fournit en fait des armes également sur place,
d'accord,
on risque en fait
donc,
de...
Donc des femmes, non, et des, hommes, des femmes et des hommes défendent leur liberté, ils défendent leur maison, ils défendent la démocratie. Oui. Et d'un seul coup, ça devient des belligérants au même titre que Vladimir Poutine qui fait des crimes de guerre. Mais on est où là? Je veux dire, cette comparaison avec la guerre 14, elle est profondément indécente en fait.
Yannick Jadot.
Et se projeter sur Jean Jaurès, là aussi, franchement, je le dis, il doit hurler dans sa tombe.
Ouais, ce que vous avez dit à l'instant, Yannick Jadot. Si Vladimir Poutine continue d'avancer, est-ce que nous devrons engager des forces, cette fois-ci, par exemple, une aide aérienne?
C'est très compliqué, cette histoire de je comprends parfaitement l'appel du président Zelensky à ce qu'il y ait ce qu'on appelle une no-flying zone, c'est-à-dire qu'en fait on empêche on bloque l'aérien, on bloque l'espace aérien pour éviter que Vladimir Poutine de continuer à bombarder avec ses avions. La difficulté, c'est qu'à partir du moment où on fait ça, c'est l'OTAN qui entre en guerre contre la Russie. Et là, on a des puissances nucléaires face à une puissance nucléaire. Et on a vu l'irresponsabilité totale de Vladimir Poutine menaçant de dissuasion nucléaire, instrumentalisant les centrales nucléaires avec le risque, bombardant une centrale nucléaire.
Il a dit
nucléaire.
Hier à Emmanuel Macron qu'il n'était pas question de toucher aux centrales nucléaires. Vous ne le croyez
ça fait,
pas,
ça fait, ça fait des mois qu'il dit aux uns et aux autres que vous inquiétez pas, il n'y aura pas la guerre, vous inquiétez pas, il n'y aura pas des crimes de guerre, vous inquiétez pas, je n'ai jamais ciblé des populations civiles. Écoutez, ça fait 20 ans. Bon, donc si ça fait 20 ans qu'il cible les populations civiles en Tchétchénie, à Grozny, à Alep, en Syrie, maintenant en Ukraine. Donc je pense que, y compris toutes les complaisances historiques à l'extrême droite et dans le reste de notre paysage politique. Et puis franchement, regardez, en 2018. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine signent à Saint-Pétersbourg un accord économique. Il y a deux accords qui sont mis en valeur, y compris médiatiquement. La présence de Total sur le gaz russe et la présence d'Orpea, le scandale des EHPAD privés. Vous trouvez normal, enfin moi je trouve totalement indécent et inacceptable que Total, à la différence de la plupart des grandes majors du pétrole, reste en Russie et participe à l'enrichissement de Poutine, ce qui est au fond son butin pour financer ses guerres. Donc moi, je demande au président de la République d'imposer à Total le retrait de la Russie, parce qu'aujourd'hui, on peut pas être complice de Vladimir Poutine.
Oui, mais si on fait ça, est-ce qu'on va pas fermer certains robinets sur l'énergie, avec les risques qu'il peut y avoir en fait derrière?
Écoutez, tous les experts nous disent que on peut tenir jusqu'à l'hiver prochain en matière de gaz. Et donc, à un moment donné, si Vladimir Poutine continue, y compris ses crimes de guerre, comme je l'ai dit, il faut envisager la question de l'embargo. Alors il faut l'envisager en la préparant, évidemment en ayant, en protégeant tous les secteurs économiques qui pourraient toucher, les consommateurs qui pourraient toucher. Mais vous savez que depuis des semaines et des mois, je demande la suspension de la directive européenne qui fait que notre prix de l'électricité, y compris en France, est indexé sur le prix du gaz. Il faut suspendre cette aberration. Donc pour nous protéger...
Là où ça va être difficile, Yannick Jadot, c'est évidemment d'avoir une entente également européenne.
Bien
puisque
sûr,
vous savez que l'Allemagne est beaucoup plus dépendante.
C'est
l'Italie,
pour ça,
l'est
c'est
également
pour ça,
et tous les
c'est
autres
pour
pays.
Ça qu'il faut la, il faut la, il faut la, il faut la, il faut préparer cette mesure, y compris en termes de solidarité au sein de l'Union européenne. Et puis, alors c'est plus difficile en quelques semaines, évidemment, mais ça fait tellement des années qu'on le demande. Investir massivement sur l'isolation des logements. Vous savez, depuis des années, nous les écologistes, et on a convaincu l'ensemble du Parlement européen et la Commission européenne d'avoir, peu importe les chiffres, mais 40% d'efficacité énergétique d'ici 2030. Et ben en ayant cet objectif reconnu possible par tous les experts, on réduit de moitié notre consommation de gaz, de deux tiers nos importations de gaz. Donc au fond, ces dépendances vis-à-vis des énergies fossiles, on le voit aujourd'hui, elles tuent la démocratie, elles tuent le climat. Donc il est temps aussi de se donner les moyens de sortir de ces complaisances et de ces dépendances.
Oui, il faut mettre ça à l'ordre du jour, par exemple, du sommet qui va avoir lieu.
Absolument.
Avec les chefs d'État européens en fin de semaine à Versailles.
Il faut qu'il y ait un plan massif d'investissement en Europe sur notre souveraineté énergétique.
Oui, mais surtout l'embargo que vous évoquiez tout à l'heure. L'embargo énergétique, quoi, avec conséquences qu'il peut y avoir.
Mais c'est, vous savez, il y a un peu moins d'un milliard d'euros par jour qui rentrent dans les caisses de Poutine du fait de ses exportations de gaz. Donc à un moment donné, si on veut qu'il arrête sa guerre, si on veut qu'il arrête de bombarder les populations civiles, on sait qu'il a d'autres objectifs en Europe que l'Ukraine. Si on veut la paix, la sécurité, il faut s'y préparer. Mais c'est justement en s'y préparant qu'on évitera les dommages collatéraux pour les secteurs économiques et pour les Français.
Oui, puisque vous avez évoqué tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon, encore une question et une référence à ça, avant de voir aussi toutes les conséquences, et notamment les décisions qu'il faudrait prendre, et l'écologie dans le débat présidentiel. Sandrine Rousseau, que vous avez exclue de votre équipe de campagne, estime que l'écologie que vous proposez, contrairement à celle de Jean-Luc Mélenchon, n'est pas assez radicale. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Écoutez, j'ai pas à lui répondre. Vous voyez la situation politique dans laquelle on est, vous voyez la situation de guerre sur le sol européen. On a eu le rapport du GIEC qui montre à la fois le chaos climatique qui nous pend au nez si nous n'agissons pas. Donc on a pris des décisions parce qu'à un moment donné, dans une campagne électorale, c'est le sens du collectif qui doit prévaloir. Elle a choisi autre chose. Elle a choisi de garder sa liberté de parole, y compris parfois de manière orthogonale
à
la campagne.
Elle vous compare à un groupe de assez de femmes et de diversité.
S'en est expliqué ce matin en disant que c'est pas, ça portait pas sur Europe Écologie des Verts. Mais j'ai pas commenté les propos de Sandrine Rousseau dans les contextes politiques aujourd'hui et au regard de sa situation dans la campagne.
Oui. Est-ce qu'il y va y avoir justement une campagne audible aujourd'hui? Les sujets de fond, on a beaucoup de difficultés à en parler parce qu'il y a cette guerre.
Il faut qu'on ait un débat de fond. On a eu les Gilets jaunes qui montraient à quel point il y avait des inégalités insupportables dans notre pays, qui montraient aussi la désertification des services publics dans toute une partie de nos territoires, la perte d'entreprises, d'emplois. Et donc de sens collectif. Il y a eu la pandémie dans laquelle on est toujours, mais qui, faut l'espérer, continue à décliner, qui nous a dit à quel point l'hôpital public était au bord du gouffre, à quel point notre société était fragile, y compris économiquement. Cette mondialisation qu'on dénonce depuis tant d'années, on a vu à quel point elle pouvait nous mettre en situation très lourde de vulnérabilité. Maintenant, il y a la guerre, on a le chaos climatique. Donc, tous ces sujets-là conduisent évidemment les Françaises et les Français dans beaucoup d'inquiétudes, dans beaucoup de lassitude, dans beaucoup de colère.
Ouais.
Et il faut qu'on ait un débat démocratique pour confronter les projets de société, pour que toutes ces colères toutes ces inquiétudes, elle puisse trouver un débouché politique.
Oui, mais Emmanuel Macron, qui est président en exercice et président de l'Union européenne également, finalement s'occupe de la guerre. Et est-ce qu'il, même si aujourd'hui il se déplace, son premier déplacement de campagne à Poissy, est-ce qu'il va aborder toutes ces questions face à vous, quoi ?
Il faut qu'on puisse aborder ces questions. Il prendrait une responsabilité extrêmement lourde pour la démocratie dans notre pays, pour le rassemblement nécessaire, pour l'apaisement nécessaire de notre société, si il voulait se cacher dans cette campagne électorale. Vous savez, les écologistes, depuis des mois et des mois, on a critiqué le fait que le président de la République mette la présidence de l'Union européenne pendant la campagne électorale. Parce que, de fait, ça réduisait la capacité de la France à porter l'Union européenne sur d'autres projets. Et on voit bien à combien on a besoin de l'Union européenne. D'ailleurs, vous voyez, même l'Union européenne, au regard de la situation d'aujourd'hui, ça va être un beau débat dans la campagne présidentielle entre l'extrême droite et d'autres candidats qui veulent, au fond, faire de l'Union européenne peau de chagrin. Est-ce qu'on va collectivement arriver à faire face à Poutine, à la Chine, à la puissance économique des États-Unis, aux GAFAM? Bien sûr qu'on a besoin de l'Union européenne transformée, mais incontestablement, on a besoin d'une France forte dans une Union européenne puissante. Donc, tous ces sujets-là, il faut que ça vienne sur la table, parce que sinon, vous vous rendez compte, s'il n'y a pas de campagne électorale,
Il va y avoir une campagne ou pas?
Mais il faut qu'il y ait une campagne. Ah. Nous, on est en campagne depuis des mois. Et quand vous êtes sur le terrain, il y a évidemment la guerre en Ukraine qui fout la trouille à tout le monde. Ouais. Mais il y a aussi le pouvoir d'achat. Ouais. Il y a aussi le logement. Il y a aussi les déplacements. Il y a aussi la santé. Ouais. Il y a aussi la perte de biodiversité. Il y a aussi l'agriculture. J'étais au salon de l'agriculture, évidemment, la semaine dernière.
On va en parler tout à l'heure, bien sûr, avec des agriculteurs qui vont
vous appeler. Tous ces sujets-là sont importants. Ouais. Et on voit bien qu'on a des choix de société à faire. Par rapport à tout ça, si on n'arrive pas à débattre politiquement de notre société aujourd'hui, je crains vraiment pour la démocratie dans notre pays pour les 5 prochaines années.
Merci Yannick Jadot. Allez-vous rester avec nous jusqu'à 9h15. Vous pouvez appeler et poser vos questions, bien sûr. 0826-300-300, il y en a déjà qui arrivent. Cécile, Arlette Chabot et Éric Revel seront également là pour vous poser vos questions. Et puis on fera un petit tour sur la revue de presse, en fait, tout à l'heure, et ce qui buzz sur les réseaux sociaux, et vous pourrez réagir.
Et restez avec nous, 0826-300-300, c'est le numéro de téléphone pour parler à Yannick Jadot ce matin.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h48, grand format ce matin avec notre invité Yannick Jadot est avec nous, 0826-300-300. Et vous vouliez poser des questions au standard et c'est Jean-Marc qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Monsieur Jadot. Écoutez, d'abord, pour répondre à la question, est-ce que l'écologie c'est important? Oui, c'est important. Et je regrette franchement que vous soyez entouré de gens qui sont des ayatollahs verts. Et si votre campagne malheureusement n'imprime pas, c'est parce que autour de vous, vous avez malheureusement des gens qui tirent à boulet rouge sur l'écologie et qui ne font pas imprimer votre discours. Ça, c'est déjà la première chose. Maintenant, pour vous poser une question, c'est très factuel et très simple. Vous parlez du SMIC à 1400. Je vais vous prendre un exemple qui est le service prestataire avec une grille salariale nationale. Entre le coefficient 120 et le coefficient 200, nous sommes entre 1200 euros et 1679 euros. Donc ça veut dire que tous ces salaires vont être en dessous des 1400 euros. Comment vous allez pouvoir obliger les employeurs privés à augmenter les salaires au-delà du SMIC de 1400 euros ?
Question donc de Jean-Marc et réponse de Yannick Jadot qui vous a entendu. Déjà peut-être sur les Khmer verts au sein de votre...
Alors c'était Ayatollah.
Ayatollah,
vous rajoutez
c'est vrai.
Khmer verts, je vous rappelle que on parle de dictateur ou de génocide quand il s'agit des Khmer rouges. Et que je trouve que la comparaison n'est pas appropriée.
On est
des démocrates. On combat pour les libertés partout. Vous le savez. Nous, on n'a jamais choisi entre ceux qui sont pro-américains, ceux qui sont anti-américains, y compris dans les dictatures. On a toujours combattu pour les libertés, la dictature. Alors, on peut faire des critiques, évidemment, et c'est le sens de la démocratie sur un projet, sur des personnes. mais attention aux caricatures qui sont pas appropriées.
Alors, comment obliger les employeurs d'en augmenter les
Ah bah écoutez, sur le SMIC, c'est l'État qui décide. Le niveau du SMIC, c'est l'État. Il vous a pas échappé que, y compris, on rentre en période d'inflation. Les Françaises et les Français ont de lourds problèmes de pouvoir d'achat sur leur logement, sur leur déplacement, sur le chauffage, l'électricité, sur l'alimentation, et que il est temps qu'il y ait un rattrapage du SMIC dans notre pays pour que chacun puisse vivre dignement.
Oui, et c'est ceux qui sont juste au-dessus qui posent.
Pour ça, vous avez parfaitement raison. Dans mon analyse, moi, je travaille pas simplement sur le SMIC, y compris sur les bas salaires. Parce que quand on est sur le terrain, vous rencontrez des personnes qui ont passé 12 ans, 15 ans dans la même entreprise, en CDI. Hein. Donc ils ont été 15 ans, 12 ans dans la même entreprise. Ils sont toujours au SMIC. Ou quelques euros au-dessus du SMIC. Alors que le SMIC, au départ, c'est le salaire d'entrée dans un métier, quand vous êtes peu formé. Mais au bout de 12, 15 ans, forcément, vous avez acquis des compétences, vous avez acquis de l'expérience, vous avez acquis pour participer à l'intelligence collective de la boîte. Et c'est très humiliant pour beaucoup de salariés de rester au SMIC et de ne pas pouvoir offrir le minimum aux enfants, une sortie au cinéma, tout ça après 15 ans dans la même boîte. Donc il va falloir aussi agir, vous l'avez raison, sur les bas salaires. On a parlé, vous savez, des 5 millions de salariés de ce qu'on appelait les deuxièmes lignes. Les caissières, les chauffeurs-livreurs, les aides à domicile, les métiers de l'agroalimentaire sont souvent des métiers très mal payés, avec parfois des contrats très précaires et la santé au travail très abîmée. Eh bien oui, il va falloir que dans ces filières-là, il y ait une négociation pour améliorer les conditions de travail, améliorer les salaires. On ne peut pas, après les avoir applaudis, que ce soit les personnels de santé, comme toutes celles et tous ceux qui ont travaillé, même pendant le confinement, on ne peut pas les avoir applaudis et les renvoyer à la gratitude sociale quand la pandémie s'arrête.
Question d'Arlette Chabot. Arlette, oui. Et vous, hein, de nouveau, au 0826-300-300 dans un instant.
Si on revient à la campagne, Emmanuel Macron, président, candidat, c'est compliqué pour lui. C'est aussi compliqué pour vous. Vous êtes soumis, parce qu'il y a la guerre, une forme d'obligation d'unité nationale, en tout cas de ne pas gêner l'action diplomatique du président de la République. En même temps, il faut attaquer le candidat et vous souhaitez un débat démocratique et tout le monde le souhaite. Comment vous allez ajuster le tir ?
Il est candidat maintenant et vous avez raison de souligner que j'ai porté dès le début la nécessité d'unité nationale. Il faudra que, y compris dans la campagne, tout le monde puisse juger de la relation des candidates et des candidats à la démocratie, les complaisances qu'il y a pu avoir vis-à-vis des dictatures ou de Vladimir Poutine et des intérêts qu'il porte. Mais aujourd'hui, si nous voulons peser face à Vladimir Poutine, c'est à l'échelle, c'est l'unité nationale, c'est l'unité européenne qui permet d'imposer un rapport de force. Et je l'avais dit quand le président de la République se rendait seul rencontrer Vladimir Poutine, y compris en tant que président de l'Union européenne. Vous vous rendez compte, il y a eu le balai des dirigeants européens à Moscou. Quelle est l'impression qu'a eu Vladimir Poutine ? C'est qu'une fois de plus, l'Europe était divisée. Une fois de plus, elle ne pouvait pas parler d'une seule voix et qu'une fois de plus, elle n'allait pas réagir à son plan d'invasion et de brutalité. Donc, il faut être ensemble. Moi, j'avais dit dès le début, le président de la République doit convoquer un sommet européen à Kiev pour affirmer la solidarité et la fermeté de l'Union européenne. Maintenant, à l'échelle européenne, je trouve que l'Union européenne a montré sa capacité à peser, incontestablement. En quelques jours, on a fait des choses qu'on n'avait jamais faites. Et c'est une bonne nouvelle pour l'Union européenne, pour sa capacité à peser, y compris dans son voisinage, à de nouveau quand même mettre au cœur de son projet politique l'essentiel, la paix, la sécurité, la démocratie, la fin des dépendances aux énergies fossiles, la souveraineté alimentaire, l'emploi.
Mais ici, comment on fait, Yannick Jadot, pour préserver l'unité nationale, tout en faisant campagne, en dénonçant le bilan d'Emmanuel Macron tous les jours ?
Parce qu'il va y avoir à la fois la gestion de cette guerre. Et ça n'empêche pas de pouvoir dire que le président de la République a abandonné les jeunes pendant cette crise. Ça n'empêche pas de dire que toutes les réformes qu'il voulait faire, y compris, je pense qu'il avait été élu pour ça, pour cette mobilité, la réforme des institutions, la proportionnelle à l'Assemblée, une nouvelle mobilité sociale. On a vu qu'en fait, les plus riches se sont enrichis, les plus pauvres se sont appauvris. Donc, il est légitime que dans ce moment-là, y compris qui est un grand moment de lassitude, d'inquiétude, de colère des Françaises et des Français, il va falloir qu'on purge ses colères. Il va falloir qu'elles s'expriment à travers des projets de société.
Cinq petites semaines. Hein.
Sinon, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, ça va être puissance 10. Oui. C'est-à-dire qu'il y aura des colères partout. À chaque réforme, on ne pourra plus toucher à notre pays si on n'arrive pas à se projeter sur les 5 ans qui viennent, y compris positivement.
Ouais. Question de Cécile.
Justement, il y a une radicalisation des discours politiques, des opinions. Sandrine Rousseau était radicale et brutale dans son écologie. Vous étiez plus pragmatique. Mais comment ne pas céder justement à l'escalade des propos pour se faire entendre ?
Quand je vais sur le terrain, et ça fait des mois et des mois qu'on est en campagne, l'attente des Françaises et des Français, c'est pas le buzz à la télé. Ça veut pas dire qu'ils regardent pas le buzz à la télé. Mais c'est un spectacle. Ils attendent des réponses concrètes et ils attendent de l'apaisement. Et moi, j'ai toujours dit que dans cette campagne, c'est vrai que la radicalité, c'était diviser. La radicalité, c'est trouver des boucs émissaires. La radicalité, c'est d'insulter l'invective plutôt que le respect de l'interlocuteur. Encore une fois, l'insulte plutôt que la proposition. Mais moi, ma radicalité, c'est de vouloir rassembler les Français, en fait. Et je trouve que c'est assez étonnant, oui, puisqu'au fond, la division et la banalité, la volonté de les rassembler. Et quel plus beau projet pour rassembler les Français que la santé, la protection de la vie, le fait qu'on n'ait pas le chaos climatique qui va déstabiliser toutes nos sociétés, le fait qu'il y ait un peu plus de justice sociale et de démocratie dans notre pays. Ben, c'est un beau projet pour se retrousser les manches et serrer les coudes.
Juste un petit point, la radicalité et finalement la brutalité de Vladimir Poutine ne va pas avoir une influence justement sur la radicalité en France où on va avoir besoin d'apaisement ?
Mais il faudrait que ça serve de leçon, vous avez raison. Il faudrait qu'on s'aperçoive jusqu'où peut aller la violence en politique, ça va jusqu'à des crimes de guerre, et que tout le monde retrouve le sens des réalités. Notre pays connaît des difficultés sérieuses, mais c'est un grand pays. Mais c'est un pays où on vit en démocratie. Tout n'est pas parfait, mais on vit en démocratie. C'est un pays qui a aussi un modèle social qu'il faut renforcer, mais on a aussi la protection sociale. Et c'est un pays qui a tous les moyens, toutes les ressources, toutes les forces vives pour, au fond, que notre pays retrouve sa place dans l'histoire, en Europe et dans le monde, autour d'une... Vous savez, une présidentielle, c'est aussi écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. C'est pas simplement revisiter les pages précédentes, c'est pas réécrire le passé, c'est écrire une nouvelle page qui est notre avenir. Et ben ça doit être ça aussi.
Une nouvelle page qui s'écrit aussi en ce moment avec toute l'actualité, bien sûr. Philippe est avec nous d'Angers. Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe.
Bonjour.
Bon, Philippe, vous êtes agriculteur, vous posez votre question dans un instant. On marque une toute petite pause, c'est le flash de 9h et on vous retrouve. Yannick Jadot est à l'écoute avec vous.
Restez avec nous, 8h58.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h05, le grand format de Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts et candidat à l'élection présidentielle. Et vos appels 0826-300-300 et c'est Philippe qui est au standard.
Oui.
Bonjour Philippe.
Avant de retrouver aussi les éditorialistes et Eric Revel qui sera avec nous dans un instant. Philippe, alors d'Angers, donc je le disais ce matin, vous étiez avec nous, agriculteur bio, et vous aviez une question directe à poser à Yannick Jadot qui vous écoute. Hein.
Oui, bonjour Monsieur Jadot. Donc moi je suis président d'une association, le SAMU Social Agricole. J'ai pris rendez-vous avec Benoît Biteau, que je connais très très bien, Benoît. On rencontre tous les candidats à la présidentielle, et j'ai entendu tout à l'heure Madame Arlette Chabot qui disait, on parlait du bilan de Monsieur Macron. Oui. Alors en termes agricoles, les éleveurs sont ceux qui souffrent le plus. Monsieur Macron s'est cassé les dents avec la loi Egalim 2, 3. Vous pouvez faire la 3, la 4, la 5, la 6, ça ne changera rien. Tous les chefs d'État se sont cassés les dents en agriculture, pour une raison simple, et c'est le message que je veux vous faire passer ce matin. Les agriculteurs ne vendent pas à Michel-Édouard Leclerc pour l'immense majorité. On est totalement intégré par l'agroalimentaire qui est en co-gestion avec le syndicat FNSEA. C'est-à-dire que les présidents de coopératives et d'agroalimentaires sont en même temps les présidents du syndicat. Et tant qu'un chef d'État ne prendra pas une loi pour encadrer la distribution, mais surtout la transformation, nous, on a un acteur face à nous, Bigard pour la viande bovine, LDC pour les volailles, Lactalis et une coopérative pour le lait. C'est une situation d'oligopole. Et là, vous passez à côté du sujet, si vous encadrez pas l'agroalimentaire qui est géré par le syndicat.
Ouais. Alors, réponse de Yannick Jadot sur cette
spécificité
de la distribution.
Un expert de ces sujets. Et effectivement, monsieur a raison, Philippe a raison sur le fait que la loi Egalim ne résout absolument pas les prix de vente à la grande distribution. La logique voudrait que, au fond, il y ait les coûts de production et il y ait 10-15% de marge pour les paysans pour qu'ils vivent décemment. Première chose, ça devrait être dans la loi. On a encore des paysans qui vendent quasiment en dessous du coût de production, en réalité. Alors que ça devrait être interdit par la loi. Deuxièmement, les coûts de production, c'est aussi le type de ferme qu'on a. Aujourd'hui, on le voit bien, les coûts de production sont en train d'exploser parce que engrais azotés, un gros contributeur au dérèglement climatique, parce que explosion des prix des tourteaux de soja qui participent au dérèglement climatique avec la destruction de l'Amazonie, notamment au Brésil, avec des producteurs qu'on force à vendre en Chine, en Russie, en voulant être compétitifs avec les Brésiliens ou d'autres. Tout ça est aberrant. Les Françaises et les Français, ils veulent des paysannes et des paysans plus nombreux sur nos territoires.
Oui, parce qu'on se dirige vers 300 000.
Il y a 30 fermes, il y a 27 fermes qui disparaissent tous les jours. 27 fermes qui disparaissent tous les jours. Près d'un suicide de paysans par jour. 40% des paysans qui ont moins de 350 euros par mois pour vivre. Et l'effondrement de la biodiversité, et la malbouffe, et tout ça. On a 13 milliards qu'on met tous les ans sur l'agriculture française. 13 milliards d'euros d'argent public. Et bien avec ça, on peut accompagner les paysans dans ce grand contrat pour qu'on commence dans les cantines, à l'école, à l'hôpital, dans les EHPAD, qu'on mange bio, qu'on mange bon et savoureux et qu'on organise ces transitions-là avec le monde agricole, avec le monde agricole, franchement, pour qu'on construise cette souveraineté alimentaire. Et à ce moment-là, on créera, pour répondre à Philippe, un tout autre rapport de force avec quelques géants de l'agroalimentaire qui effectivement impose aux paysans
beaucoup plus
modèle dans lequel ils ne maîtrisent même plus leur ferme.
Oui. Éric Revel, Éric, question avec vous. Éric ?
Oui, je vous écoute. Je vous écoute depuis ce matin avec beaucoup d'intérêt, évidemment. Bon, je vais faire un constat qui va pas vous plaire, mais quand je vous écoute et que je vous regarde, j'ai l'impression que vous y croyez de moins en moins à cette campagne électorale. Alors, je vais vous dire. Vous parlez de la fin du monde et les Français y sont sensibles, mais les Français, surtout en ce moment, ils ont besoin qu'on leur parle concrètement de la fin du mois. Or, vous l'avez dit, il faut augmenter le SMIC, il y a un problème de pouvoir d'achat. Vous avez même lié l'augmentation du SMIC, il me semble me souvenir, au niveau de l'inflation. Ça veut dire que très concrètement, Yannick Jadot, si la crise ukrainienne continue, est-ce qu'il faut augmenter davantage le SMIC que vous l'avez promis ? Alors, vous avez dit 1400 euros tout à l'heure. Bon, j'avais vu jusqu'à 1500 euros, mais peu importe. Est-ce que vous êtes prêt à mettre sur la table une mesure concrète de pouvoir d'achat qui serait en adéquation avec ce que vivent les Français en ce moment, c'est-à-dire des litres d'essence à plus de 2 euros, des litres de gasoil, même s'il faut rouler propre. Très concrètement, il y a le programme que vous avez mis sur la table avant tout ça, et comment répondre aux problèmes de fin de mois des Français là maintenant ?
Alors, je peux vous dire qu'on croit, on est très impliqué dans cette campagne, on est très très mobilisé parce que ce qui se joue en 2022, je l'ai dit, ça sera le choix entre différents modèles de société, dans quelle société on veut vivre pour soi, pour voir grandir ses enfants et ses petits-enfants, et que l'échéance de 2022 est dramatique à bien des horizons. Sur le pouvoir d'achat, merci de me poser la question. Dans mon projet, c'est immédiatement 400 euros de chèque énergie sur les 6 millions de familles qui bénéficient déjà du chèque énergie. Plus 100 euros de chèque énergie pour les 15 millions de familles au-dessus pour justement passer moins difficilement cette séquence de hausse des prix de l'énergie, que ce soit carburant ou l'énergie. Deuxièmement, je veux mettre en place dans les entreprises, aujourd'hui c'est optionnel, je veux le rendre obligatoire, les forfaits mobilité durable pour que, par exemple, si vous vous mettez en covoiturage, parce qu'il y a plein d'endroits où vous ne pouvez pas accéder à des transports collectifs, vous vous mettez en covoiturage, l'entreprise remboursera jusqu'à 1 000 euros de carburant par an 1000 euros de carburant, plus l'investissement dans la rénovation thermique des logements, c'est 600 à 700 euros par mois, plus le chèque énergie, plus la TVA qui baisse sur les produits responsables qui augmente sur les produits non responsables, plus, pour finaliser sur le SMIC, c'est 1400 euros net en arrivant et 1500 euros à la fin du quinquennat.
Oui. Tout ça financé comment, monsieur
Oui,
Jadot,
comment vous financez financé
comment
Mais le
SMIC. Il n'y a pas d'argent magique et que les caisses de l'État sont vides, comme vous le savez.
Je finance quoi, comment
bah, les, par exemple, les chèques. Les chèques énergie.
Ah, les chèques. Mais vous savez, on a sur les cinq derniers mois, le gouvernement a dépensé 15 milliards d'euros sur la compensation des factures. Je propose un chèque énergie de 400 euros pour 6 millions de familles, c'est beaucoup plus efficace pour celles et ceux qui souffrent le plus et ça coûte 2,4 milliards. Les 15 milliards d'euros en quelques mois, c'est plus que ce gouvernement n'a mis sur l'isolation des logements dans tout le quinquennat. C'est plus que les gouvernements ont mis sur la production supplémentaire d'électricité par les énergies renouvelables parce qu'elles sont moins chères. Donc moi, j'assume que face à au chaos climatique qui arrive face à la société taraudée par les tensions, taraudée par les divisions. Oui, il faut investir. Oui, je suis prêt à emprunter à des taux qui sont extrêmement faibles, proches de 0%.
Oui, mais attention,
à 50,
ça va repartir.
À 50, à 60 ans. Franchement, là, on a besoin de sauver notre société dans les 5 ans qui viennent.
Avant de rejoindre Abdelhak, dernière question avec vous. Vous chauffez comment, vous, d'ailleurs?
Moi, je loue un appartement, c'est du gaz.
C'est du gaz, oui.
Ouais.
Et donc, vous voyez les factures augmenter.
Mais bien sûr, comme tous les Françaises et les Français.
Et c'est... si justement on coupe, alors, mais dans votre immeuble, on ne fait pas des travaux pour se séparer de cette chaudière, remettre des panneaux solaires. Mais non, mais c'est très concret.
Vous avez raison, c'est extrêmement concret. Je suis malheureusement locataire.
Ouais.
Donc, il ne me revient pas d'isoler le logement. C'est pour ça qu'y compris, on veut mettre en place progressivement, au fil des années, la rénovation thermique. De plus en plus obligatoire. Et ce sera gratuit pour les 2 millions de familles qui souffrent le plus de précarité. Vous savez qu'en ce moment, aujourd'hui là, parce qu'il fait froid en plus dehors, vous avez 12 millions de Français qui n'arrivent pas à se chauffer convenablement. Et ces 12 millions de Français qui n'arrivent pas à se chauffer convenablement, si la canicule que prévoient les météorologues arrive cet été, ce sont des familles aussi qui vont vivre étouffées dans leur logement.
Donc alors, là, il y aura des aides, effectivement.
Il y aura des aides, et pour les plus vulnérables, ce sera pris en charge, parce que c'est des enjeux de santé, c'est des enjeux de confort, c'est des enjeux, de solidarité.
Panneaux solaires, panneaux photovoltaïques. Par exemple, moi, je voyais les toits des gares, par exemple, des établissements.
Mais tout ce qui est plat.
Je ne comprends pas, évidemment, qu'il n'y ait aucune décision de prise là-dessus. C'est là qu'il faut vous entendre.
C'est là dans notre projet qu'on veut, sur tous les toits plats, imposer des panneaux photovoltaïques, les toits des parkings, les toits des
Mais c'est considérable quand on sillonne notre pays.
Ce sont des milliers de kilomètres carrés qu'on peut aménager avec une énergie qui est aujourd'hui très peu chère.
Allez, dernière question avec...
Abdelhak, qui nous appelle de Mont-de-Marsan. Bonjour Abdelhak.
Bonjour Abdelhak.
Bonjour Sud Radio, bonjour Monsieur Jadot.
Bonjour monsieur.
Voilà, j'ai toujours voté à gauche, je crois que mon premier vote, enfin je ne sais pas, je crois, j'en suis certain, quand j'étais majeur, il était écologiste, vous voyez, donc voilà. Mais bon, je dois vous dire, je ne voterai pas écologiste à ce tour-là. Je suis assez sensible quand même à la gauche qui s'est beaucoup éparpillée, qui me fait même quasiment honte au vu de l'ego démesuré de beaucoup de candidats qui représentent la gauche ou gauche radicale. Et ma question, elle est toute simple, c'est plutôt que de faire passer vos idées en vous regroupant et même ne pas avoir 100% de vos idées, mais en avoir au moins 30%, parce que tous les Français sont écologistes. Est-ce que vous sentirez pas ridicule et vous ressentirez pas votre... votre part, en fait, de catastrophe le soir du 10 avril.
C'est-à-dire, il faudrait se regrouper, c'est ça, à gauche, quoi, non ?
Parce qu'ils ont décidé de ne pas se regrouper avec des égos démesurés, en fait, ils vont prendre une fessée toute prévue le soir du 10 avril. Est-ce qu'il va ressentir en lui un sentiment de honte ?
Vous savez, monsieur...
Alors, Yannick, j'ai dû vous répondre.
Vous savez, monsieur, je fais de la politique pour mes convictions. Ça fait 30 ans que je me bats pour l'écologie et la solidarité. Ça fait 30 ans que beaucoup de partis politiques, y compris à gauche, nous disent « Mais vous inquiétez pas, on va la faire l'écologie ». Quand ils gouvernent, malheureusement, c'est pas ça. Là, il y a le climat, il y a la biodiversité, il y a la justice sociale. Et puis, vous savez, monsieur l'écologiste, c'est aussi la démocratie. À gauche, vous avez des projets qui, au fond, visent à rendre l'Union européenne totalement, au fond, inefficace, réduite à la portion congrue. Eh bien, je pense que pour affronter les grands défis qui sont devant nous, des défis de sécurité, de paix, des défis de lutte contre le dérèglement climatique, de reconstruction d'un modèle social puissant où chacune et chacun se sent à l'aise, épanoui, accompli, eh bien, il nous faut l'Union européenne. Et puis, on est quand même, pardonnez-moi, on est en pleine guerre en Ukraine. Désolé, mais quand certains candidats, depuis des années et des années, soutiennent l'asservissement de l'Ukraine à la Russie, soutiennent Poutine, y compris dans ses crimes de guerre répétés, pardonnez-moi, ça fait des sacrées différences. C'est pas qu'une question d'ego.
Merci, Yannick Jadot a répondu à toutes vos questions. Enfin, il pouvait y en avoir d'autres, je sais qu'il y en avait d'autres au 0826 300 300. Bah, il reviendra.
Merci de votre invitation.
5 semaines. Bah oui, merci d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à toutes les questions. Dans un quart d'heure maintenant, Cécile.
Oui, c'est la France, c'est la vérité en face, vous le savez, hein, comme chaque matin à 9h30, la France est-elle une voix écoutée dans le monde? Pour en parler ce matin, Michel Alliot-Marie sera avec nous, ancienne ministre de la Défense, de l'Intérieur, des Armées, ancienne députée et députée européenne aussi. Son livre Voir plus loin, feuille de route pour un prochain président. Vous voulez en parler, posez vos questions. 0826 300 300, on vous attend au standard. Et juste avant, c'est Éric Revel en campagne. À tout de suite.